Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h,
Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
C'était le cri du cœur de Julien Courbet. Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Agnès Bonfillon, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. À la une plainte au pénal contre Renault. 2000 propriétaires accusent le groupe automobile de tromperie et de mise en danger de la vie d'autrui. Nouvelle demande de remise en liberté pour Cédric Jubilard. Décision rendue tout à l'heure à 14h. L'année dernière, plus de 72 000 hectares de forêt ont brûlé en France pour éviter un nouveau record cette année. Des formations étendues pour les professionnels et une météo des forêts à partir d'aujourd'hui. Emmanuel Macron est à Nîmes aux côtés de la sécurité civile. La France au tableau. Quelle note cette fois de la part de l'agence Standard & Poor's ? Paris pourrait être à nouveau sanctionné pour sa gestion des finances publiques. À suivre également quand les professionnels disent merci. RTL, notre radio a aidé à recruter 117 saisonniers ces 6 dernières semaines.
Et on en parlera justement à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. 32-10 pour dialoguer jusqu'à 14h30.
Le sommeil est vital, mais ce n'est pas toujours simple de retrouver Morphée. Journée spéciale bien dormir sur RTL et ce midi, ce qui peut vous rendre la nuit impossible, les ronflements. Y a-t-il de vraies solutions ? Nous en discuterons tout à l'heure avec un spécialiste dans RTL. Midi votre vie, notre question du jour concerne le sommeil justement. Dormez-vous correctement ?
RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes, RTL midi un jour chez vous en France.
Parce qu'il n'y a pas que le tapage nocturne et autres réunions de copropriété dans la vie. La fête des voisins, c'est ce vendredi. Dans certains quartiers de Paris, vous allez l'entendre, on fait les choses en grand. Et puis, je sais que vous adorez Pascal, le phénomène...
Mais qui n'aime pas ? Tout est chaos. Qui n'aime pas Mylène Farmer ?
L'artiste, vous le savez, débute sa nouvelle tournée demain à Lille. Certains de ses fans campent depuis plusieurs jours devant le stade de Villeneuve d'Ascq. Nous aurons un fan de la première heure tout à l'heure avec nous. Et puis dans LVT Midi, nous reviendrons avec Bernard Lehu sur l'élection de Sylviane Agacinski à l'Académie française et les difficultés que rencontre cette vieille institution.
Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h avec les auditeurs. C'est la fête des mères dimanche. Donc achetez quelque chose pour vos mamans, pourquoi pas. Faites un cadeau. Imaginez un cadeau.
Et pas d'aspirateur, merci. Oui. Mais avant cela, la météo avec vous, Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
En un mot, ce qui nous attend cet après-midi.
Bah ça change pas en fait, des orages dans le sud et ça commence à claquer en Lozère ou encore dans les Bouches-du-Rhône alors que le nord garde le soleil.
Merci Valérie.
RTL Midi.
Emmanuel Macron est attendu d'une minute à l'autre dans le Gard auprès de la sécurité civile. Sur la base aérienne de Nîmes-Garon, le chef de l'État va échanger avec l'ensemble des acteurs mobilisés contre les feux de forêt. À l'approche de l'été, partout en France, de nombreux professionnels sont formés. Ces stages permettent en fait aux gendarmes, aux forestiers et aux autres pompiers de toujours en savoir plus sur les départs de feux volontaires. Pour RTL, Philippe de Maria, vous avez suivi l'une de ces sessions en forêt de Bazas entre Bordeaux et Agen.
L'équipe de 3 enquêteurs arrive sur la forêt calcinée. Premier réflexe, interroger un témoin.
À notre arrivée, le feu était déjà éteint. Vous voyez, il y avait encore les flammes complètement éteintes. Donc les pompiers étaient déjà repartis. Et comme je suis le propriétaire du terrain, j'aimerais savoir ce qui s'est passé.
Il faut maintenant rentrer dans le brûlé, relever tous les indices sur la végétation pour déterminer la trajectoire du feu.
Pas facile, pas facile. L'enquête est toujours en cours. Là, s'il a avancé et que c'est tombé après...
Qu'est-ce qu'on a comme autre élément ?
Un petit phénomène d'exposition, protection, tu vois. Regarde. Ouais, t'as vu, on dirait que c'est exposé, protégé.
Ouais. Le tout sous l'œil expert de Patrick Resplandy, ancien pompier à la retraite de l'Hérault, qui reprend du service pour transmettre son savoir sur la recherche des causes d'incendie.
Il vient de la braise ici. Ouais. On est dans le brasier.
On est dans le brasier.
On remonte le brasier.
C'est un travail qui demande beaucoup de concentration et surtout de travail en commun, beaucoup d'échanges. Et là, les jeunes sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Ce sont tous des jeunes de terrain, donc ils amènent en plus une connaissance spécifique à chaque métier, du feu de forêt.
L'adjudant-chef Damien Aversan est lui gendarme, il est technicien d'identification criminelle.
Là, on va aller peaufiner nos recherches à quatre pattes. S'il faut tamiser le sol, on le fera. À nous de trouver, s'il est présent, l'indice matériel et le prélever. Ça me permet de me perfectionner et en plus de travailler de concert avec le forestier et le pompier, cette entraide est forcément efficace.
Une centaine de techniciens ont déjà été formés en Nouvelle-Aquitaine. Ils seront fin prêts en cas de sinistre cet été.
Le reportage de Philippe Demaria pour RTL. La météo des forêts est lancée aujourd'hui. Elle a pour but d'informer chacun d'entre nous sur le niveau de danger de départ de feu. Cette carte sera publiée tous les jours à partir d'aujourd'hui, donc jusqu'à fin septembre. Cédric Jubilard va-t-il rester en prison 6 mois de plus ? Mis en examen pour meurtre aggravé, le mari de Delphine Jubilard, disparu en décembre 2020, est incarcéré depuis près de 2 ans. Et dans 2 heures, le juge des libertés dira si oui ou non il accède à la demande de remise en liberté formulée par ses avocats. Nous y reviendrons dans le journal de 12h30.
RTL Midi.
Près de 2000 propriétaires de voitures Renault vont déposer plainte au pénal contre le groupe lundi.
Oui, des propriétaires de Clio, Mégane, Capture Scénic ou encore de Nissan Qashqai reprochent aux fabricants automobiles de tromperie, de mise en danger de la vie d'autrui. Bonjour Christophe Bourreau.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste auto. De quoi se plaignent exactement les propriétaires ?
Eh bien, d'un défaut de fonctionnement d'un moteur essence, le 1 litre 2 TCE qui équipe une dizaine de modèles lancés entre 2012 et 2016 et qui peut entraîner une surconsommation d'huile avec comme conséquence une usure prématurée, voire une casse de ce moteur, ce qui peut être très dangereux à vive allure selon l'avocat des plaignants, maître Christophe Legvac.
Le plus souvent, elle casse alors que vous êtes en pleine vitesse à 130 sur l'autoroute et donc votre moteur ne répond plus et vous vous retrouvez à devoir rouler à 30 ou 50 km/h alors que par exemple vous êtes en train de doubler un camion et que vous n'avez plus aucune puissance, aucune reprise pour justement achever le dépassement. Vous vous mettez en danger et vous mettez les autres usagers de la route aussi en danger.
Alors précisons quand même, dans ce dossier, il n'y a pas eu de victime pour un dispositif installé sur 130 000 voitures en France.
Que répond Renault ?
Alors Renault explique qu'il n'a jamais cessé et continue d'examiner les demandes qui lui sont adressées. Ainsi, pour le constructeur, 93% des cas identifiés à ce jour dans ce dossier ont déjà fait l'objet d'une prise en charge.
Et concrètement, que réclament les plaignants ?
Alors qu'au moins Renault leur rembourse la valeur de leur voiture au moment de l'achat, estimant qu'il y a eu tromperie. C'est justement sur ce motif de tromperie qu'il y a un dépôt de plainte qui sera déposé lundi au tribunal de Nanterre.
Christophe Bourreau, notre spécialiste automobile chez RTL. Le décès de Guillaume Batz, l'humoriste de 36 ans, souffrait de la maladie des os de verre. Il faisait rire avec beaucoup d'autodérision, d'humour noir. Les causes précises de son décès ne sont pas encore connues. La Ligue 2, Julien Courbet en parlait tout à l'heure, Pascal. C'est ce soir, dès 20h, dans RTL Foot. 10 rencontres, pas moins, en multiplex. Bataille du Havre, de Metz et de Bordeaux, les 3 premiers du classement pour décrocher les seulement 2 tickets de promu.
RTL Roland-Garros 2023.
Et oui, nous prenons la direction de Roland-Garros et nous retrouvons Isabelle Langer. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Troisième tour aujourd'hui. Alors on l'a dit, plus de Français Isabelle, mais quand même du beau monde.
Oui, il y a du beau monde. Il y a notamment la Russe Kazatkina, Daria, tête de série numéro 9 et demi-finaliste l'an dernier, qui l'a emporté il y a un instant 6-1 contre l'Américaine Stearns. Sur le court central, on a en ce moment la Belge Mertens face à l'Américaine Pegula, tête de série numéro 3 de ce tournoi. 2-0 pour la Belge, tête de série 28. On attend encore cet après-midi Djokovic contre l'Espagnol Davidovich Foïkina ou encore Tsitsipas contre l'Argentin Schwartzmann. Il y aura un duel assez intéressant entre la Russe Blinkova et l'Ukrainienne Svitolina, la femme d'ailleurs de Gaël Monfils, mais on parlera plutôt de guerre, j'ai l'impression, sur ce cours.
Isabelle, peut-on revenir sur ce qui s'est passé hier soir à Roland-Garros ? Un public pas très comment dire ?
D'abord, c'était un match formidable parce que moi, j'ai découvert un joueur extraordinaire qui s'appelle Arthur Rinderknecht, qui est 78e mondial, qui frappe fort et qui a été battu par Taylor Fritz, qui est 9e mondial. Simplement, le public est insupportable. Ou le public a picolé ou a bu, par plus exactement. Voilà. Non, mais disons les choses.
Non, mais vous n'êtes pas loin de la vérité, Pascal, pour ne rien vous cacher.
Le soir, les gens ne sont pas les mêmes que
l'après-midi. On se serait cru sur un stade de foot hier soir et ça a été très, très limite au niveau du comportement du République ont expliqué aux auditeurs. Ils ont naturellement, comme ils l'avaient fait contre Gaël Monfils, soutenu Rinderknecht normal. C'était le dernier Français en lice. Il y a eu des belles Marseillaises sur ce cours, etc. Mais ils n'ont pas été très fair-play vis-à-vis de Taylor Fritz. Et donc, à la fin du match, Taylor Fritz, dès qu'il a gagné le match, a mis le doigt devant sa bouche en leur disant « Merci de vous taire un petit peu. Voilà, je vous ai un peu fermé le claquet, quoi, le supporter. » Et en fait, il a rajouté de l'huile sur le feu. Et quand Marion Bartoli est venue sur le court pour l'interviewer, bon, alors là, je ne vous dis même pas l'ambiance. Ils n'arrivaient pas à en placer une. Ni Marion Bartoli n'arrivait pas à poser sa question, ni Taylor Fritz n'arrivait à prendre la parole. Il a quand même dit, avec beaucoup d'humour, la seule phrase qu'il ait dite, c'est « Merci de m'avoir soutenu comme ça. Love you guys. Je vous aime les gars. » Voilà. Et il l'a fait finalement avec panache parce que franchement, c'était vraiment pas évident cette ambiance et c'est un peu dommage. C'est pas tellement Roland Garros.
Oui, c'est avec panache, mais dans les tribunes, c'est avec panaché, manifestement. Parce que
enlever la limonade.
Bon, en revanche, merveilleux. D'abord, c'était un super match. Vraiment, oui. C'était formidable. Et puis ce Français, il a peut-être de l'espoir.
Oui. Alors, vous savez, il a fait des études aux États-Unis, lui. Arthur Rinderknecht, il sort des universités américaines. Il explose un petit peu sur le tard, mais il a beaucoup de talent.
Merci beaucoup, Isabelle. On se retrouve tout à l'heure, à midi et demi, bien évidemment. La météo, c'est avec vous Valérie Quintin. Des températures en baisse pour cet après-midi et encore des orages dans le sud.
Ouais, ça commence à claquer dans le département de la Lozère ou encore en Aveyron, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Haut-Var. Et c'est pratiquement toute la moitié sud qui va s'y coller cet après-midi et ce soir, avec localement à nouveau un risque de grêle. Ce sera le cas surtout vers le Massif central. Des orages qui vont monter jusqu'aux Alpes, qui concerneront également la Corse. Et pendant ce temps-là, la moitié nord continuera de passer toutes ses heures sous le soleil. Un soleil qui sera légèrement voilé, d'ailleurs, c'est d'ailleurs le cas déjà actuellement, le long des côtes de la Manche. Et côté Mercure, ça baisse un peu. Vous l'avez dit, 17 degrés à Caen cet après-midi, 19 à Abbeville, 23 degrés à Paris, 24 à Orléans, 26 à Strasbourg, 27 à Nîmes et encore 29 à Cognac.
Merci beaucoup Valérie.
RTL Midi, un jour chez vous.
Chaque jour l'info au plus près de vous. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui la direction le 17e arrondissement de la capitale où une gardienne d'immeuble organise ce soir une fête des voisins XXL.
Et aujourd'hui, en ce jour de fête des voisins, donc on va rugoter. C'est dans le 17e arrondissement, donc on retrouve Anna Jojard. Bonjour Anna.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Alors, ambiance ?
Eh bien, on est dans les derniers préparatifs pour cette fête des voisins qui va accueillir plus de 1000 personnes. Alors, les guirlandes lumineuses sont déjà accrochées comme les ballons de baudruche. Et puis, dans le quartier, personne ne peut l'ignorer. L'affiche de la fête est placardée à chaque porte d'immeuble. Et juste en haut de ces affiches, la photo de Loulou, cette gardienne d'immeuble du numéro 26. Elle est sur le pont depuis 6h du matin. Et je la retrouve en pleine pause café avec son équipe.
Vous faites quoi depuis 6h du matin ?
Ben, on bloque les places de stationnement pour que tout soit impeccable, pour accueillir les groupes, les animations, tout ce qu'il y a.
Donc là, c'est le café pour motiver un peu tout le monde ?
Ben, c'est surtout pour se réchauffer un peu aussi, mais aussi pour donner un peu d'énergie. Le temps de tout ranger, ça se termine jamais avant 1h du matin.
Et alors, pour cette fête des voisins, tout le monde met la main à la pâte, peut-être ?
Et oui, parce qu'entre le bar, la logistique, les activités pour les enfants, eh ben, il faut du monde. Et ils sont une trentaine de bénévoles à aider Loulou aujourd'hui. Mais ils ne sont pas les seuls. Les commerçants aussi se sont joints au mouvement. Une cinquantaine d'entre eux participent financièrement ou avec leurs propres moyens. Comme Benoît, il tient une épicerie en haut de la rue et ça fait 3 ans qu'il est partenaire de cette fête.
Nous, on participe financièrement et on apporte toujours quelques produits pour participer au banquet. Gâteaux, plateaux de crudités. Il y a un vrai esprit village, tout le monde se connaît. Ça met de l'ambiance et ça crée du lien social dans le quartier, donc il n'y a pas de raison de ne pas être partenaire.
Et cet esprit village, justement, Anna, c'est grâce à Loulou ?
Ah oui, elle y contribue largement. Il suffit de marcher 5 minutes dans la rue avec elle. Elle va saluer une dizaine de personnes et bavarder avec la moitié d'entre elles. Et cette mentalité qu'elle insuffle à son quartier, elle la tient de son village natal au Portugal.
Là-bas, c'était un peu comme ça. Tout le monde se connaissait, tout le monde s'entraidait. C'était très bienveillant. Comme ici, on est vraiment liés entre nous. Il y a une dame qui s'appelle Mathilde qui habite là, au numéro 17. L'autre fois, elle était malade. Moi, je lui ai fait les repas, je lui amenais tous les jours. Et c'est ça qu'il faut faire. Elle est toute seule. Donc, on ne va pas laisser quelqu'un seul, surtout qu'elle est un peu âgée. Sans manger ou sans pouvoir lui faire les cons.
Et allez, plus que quelques heures et tout sera prêt pour le début de la fête.
On a hâte que vous nous fassiez vivre ça, Anna Jojard pour RTL.
Tout est chaos, tous mes idéaux, des mots abîmés. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis d'une génération désenchantée. On va parler du phénomène Farmer dans une seconde, puisque Mylène Farmer est ce soir et pour la première fois de sa tournée à Lille. Elle sera à Nantes la semaine prochaine et puis elle sera au Stade de France fin juin. À tout de suite. C'est demain, ouais, vous avez raison. C'est pas ce soir.
Mais vous campez déjà, c'est bien.
Non, mais vous avez raison. C'est demain.
RTL Midi.
Pascal Pro, Agnès Bonfillon.
RTL Midi.
Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
Je suis serveur dans un salon de thé depuis 12 ans et j'ai un patron qui sait très bien que je suis un grand fan de Mylène et que je prends toujours beaucoup de congés pour aller la voir. Et là, j'ai pris 3 mois de congés sans solde pour la suivre sur toute sa tournée jusqu'à fin juillet à Nice.
Vous avez sûrement entendu Julien au micro d'Antoine Decarne sur RTL. Il est déjà sur place depuis 3 jours pour un concert qui n'a lieu que demain à Villeneuve-d'Ascq. Ça fait partie des grands fans de Mylène Farmer. Les fans de Mylène sont particulièrement fidèles et on va essayer de décrypter ce phénomène avec vous, Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Mais aussi avec Christophe Ange Papini, bonjour.
Bonjour.
Alors vous faites vraiment partie des grands, grands fans. Vous avez d'ailleurs écrit un livre, il y a plus de 10 ans, « Fou de Mylène Farmer ». On entendait Julien qui campe depuis 3 jours. Vous aussi, ça vous est arrivé ?
Camper avant un concert, non. Par contre, en 2006, j'allais quasiment tous les jours devant Bercy pour les répétitions, juste pour écouter et rencontrer d'autres fans.
Ça veut dire quoi, être fou de quelqu'un ?
Fou, c'est une grande admiration. Je pense que Mylène, on l'aime pas, on l'idolâtre en tant que fan.
Mais vous l'avez rencontrée, vous avez échangé avec elle ?
Oui, bien sûr, je l'ai rencontrée. Alors, échanger, ça a été difficile, puisque se retrouver devant elle, c'est très, très stressant. Néanmoins, j'ai quand même eu un câlin de sa part et j'ai pu la voir plusieurs fois, oui.
Mais dans ma question, il y a cette idée, est-ce que vous avez envie de la voir ou faut que ça reste un fantasme lointain ? Est-ce que vous avez envie de la connaître, au fond ? Parce que quand on connaît quelqu'un, évidemment, parfois, l'image peut être différente.
Je pense qu'on la connaît déjà très bien à travers ses chansons, à travers les mots qu'elle nous donne, y compris pendant les quelques rares interviews qu'elle peut donner. Et c'est amplement suffisant, à mon sens.
C'est quoi être fan, Christophe ? C'est vraiment la suivre de partout, vivre finalement que pour Mylène Farmer ?
Alors, vivre que pour elle, ça c'est quelque chose que j'ai fait il y a quelques années, mais maintenant c'est plus le cas. Mais elle fait partie de mon quotidien. De toute façon, je ne me vois pas passer une journée sans l'écouter au moins une seule fois.
Et la chose la plus dingue peut-être en termes... Alors, on parlait d'aller devant Bercy par exemple, ou de dépenses que vous ayez faites pour Mylène Farmer, une chose complètement dingue.
Dingue, j'ai passé 2 ans à l'attendre en bas de chez elle quand même.
D'accord. Et c'est là que vous l'avez rencontrée ?
C'est là où je l'ai rencontré, oui.
Et c'est pas un peu gênant d'attendre quelqu'un en bas du domicile ? Enfin, c'est pas comme si c'était la sortie d'un concert, c'est encore autre chose ?
Alors, c'est autre chose, effectivement. Moi, je l'ai fait, j'étais jeune, on était un groupe de plusieurs personnes. Mais comme Mylène disait, du moment qu'on ne gâche pas notre vie, elle est en paix.
Steven Bellery, on arrive à savoir pourquoi Mylène Farmer provoque un tel phénomène ?
Il y a chez Mylène Farmer la force d'un univers. C'est pas une Johnny Hallyday qui pouvait avoir comme ça le même genre de fascination qu'il exerçait auprès d'un public. Johnny, c'était des tubes très limpides, millimétrés, une voix, un homme de scène. Mylène Farmer, c'est un univers qu'elle a fasciné, qu'elle a façonné depuis quasi 40 ans aujourd'hui, avec un répertoire extrêmement cohérent qu'elle a su faire évoluer comme ça. Mais il y a des thématiques qui sont très fortes chez elle. Il y a une pop débridée, subversive, exubérante, provocante. Et elle parle de religion, de mort, de sexe, de libertinage, d'identité, de temps. Et donc, ses fans se sont aussi construits grâce à cet univers extrêmement balisé et mystérieux, et un personnage qui va au-delà de la musique. Mylène Farmer, ça n'est pas une technicienne vocale, ce n'est pas une diva, on va voir une...
Elle a une voix quand même intéressante.
Elle a une voix intéressante, mais
c'est
pas
une
Céline
icône
Dion.
Gay également.
C'est aussi une icône gay, évidemment, je pense qu'elle...
L'était en tout cas aujourd'hui, ces combats-là existent moins, mais dans les années 90, ils étaient encore très présents,
évidemment.
Parce qu'il y avait plus d'intolérance dans la société française.
Je pense
et elle a été une icône gay.
Je pense qu'il y a un aspect psychologique très fort, qu'elle a été une quasi-seconde mère pour beaucoup de jeunes garçons, son rôle dans la communauté gay a été indéniable, elle a comblé peut-être un vide chez ces gens-là dans la construction identitaire, et... de part de sa musique, parce que c'est aussi une femme forte, une femme extrêmement charismatique, et ça a été une figure très importante dans la chanson française, parce qu'elle a incarné comme ça le rôle vraiment fondateur, courageux, audacieux, provoquant et assez au-delà du charisme en fait, Mylène Farmer. Donc elle a dû aider une part de la communauté gay, une partie de la communauté gay qui s'est retrouvée chez elle.
On sera avec les auditeurs tout à l'heure. Vous viendrez ?
Ah ben.
Vous viendrez, cher Steven, si je vous le demande gentiment.
Si vous le demandez gentiment.
Vous allez la voir quand ?
Demain.
Vous serez à Lille demain ?
Évidemment, je serai à Lille demain.
Après,
pour la
elle est à Nantes. Elle fait tous les stades. Hein.
13 stades. Imaginez, c'est absolument unique. C'est
incroyable.
En France,
et ça a été vendu en une demi-journée.
Elle a pas rempli. Tous les stades ne sont pas tout à fait complets, mais c'est quand même extraordinaire comme tour de force.
Mylène Farmer, à tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
RTL Midi,
votre vie.
Votre vie, Carl Info, c'est ce qui fait aussi votre quotidien aujourd'hui. Ah oui, c'est...
Mais réveillez-vous, Pascal.
Mais c'est un sujet sur le ronflement ou sur le sommeil?
Alors, bah, les deux, mon capitaine.
Ah, c'est pas la même chose.
Effectivement, à l'occasion de la journée spéciale Bien dormir, mieux dormir sur RTL, on vous dévoilait un sondage, hein, RTL, Aris, Toluna, Observatoire Pro BTP. 48% des personnes interrogées déclarent que le fait de bien dormir est une priorité pour être en bonne santé. C'est une priorité. Et parfois, bah, les ronflements, c'est un peu le meilleur ennemi de nos nuits. Bonjour Maxime Elbaz.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du sommeil, directeur scientifique de BioSerenity, solution connectée hein, pour mieux dormir justement. Alors d'abord revenons sur les problèmes qu'engendrent les ronflements.
Alors les problèmes qu'engendrent les ronflements, c'est un problème de santé publique déjà. On estime à peu près à 40 à 50% des Français qui ronflent de manière occasionnelle. Donc ça perturbe vraiment quand on dort couple, c'est un problème social hein, quand on se déplace, mais aussi le ronflement, c'est un événement qui est régulier, mais qui peut être grave si on provoque de l'apnée du sommeil. Ça peut provoquer de l'apnée du sommeil, et là, ça devient grave.
Alors, il faut expliquer ce qu'est l'apnée du sommeil.
Alors, l'apnée du sommeil, c'est un arrêt respiratoire des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire qu'au niveau de la sphère ORL, ma langue va pencher plutôt en arrière, va obstruer ma gorge et l'air ne va plus passer pendant à peu près 10 secondes. Donc ça, c'est la définition. Ça peut se répéter plusieurs fois dans la nuit. On peut avoir des apnées qui peuvent durer, moi j'ai vu dans ma carrière, 3 minutes d'apnée du sommeil durant la nuit.
Énorme. Avec ce qu'on appelle une chute... Personne ne respire pas pendant 3 minutes,
ouais, avec une chute d'oxygène du sang, donc c'est-à-dire une baisse du flux sanguin dans le cerveau. Mm. C'est pour ça que les personnes qui font de l'apnée sont fatiguées dans la journée.
Bon, mais là, c'est exceptionnel quand même.
C'est assez fréquent, l'apnée du sommeil, ça représente 3 millions de Français, 30 ah oui. millions d'Américains.
Oui, alors les Américains, mais les Français, ça me préoccupe oui. forcément beaucoup, parce que c'est presque 5% de la population.
C'est ça, 5% de la population, 40%...
Jeunes ou vieux?
Alors entre 40 et 60 ans, on estime entre 40 et 60 ans, plus la prédominance masculine. Mais donc les femmes sont protégées contre les apnées avant la ménopause, grâce aux hormones sexuelles. Donc les hormones sexuelles protège contre l'apnée du sommeil, mais à la ménopause, malheureusement, on a le même phénomène.
Pour en revenir au ronflement, est-ce qu'on arrive à déterminer les causes? Pourquoi on ronfle finalement? Alors, est-ce que tout le monde ronfle?
Oui, alors tout le monde ronfle de manière occasionnelle. Par exemple, là, on est en pleine période de pollinisation, donc on a les rhumes, donc nos fosses nasales sont un petit peu obstruées, donc l'air vibre un peu plus au niveau des fosses nasales, mais aussi les causes, c'est qu'au niveau des tissus mous, donc le voile du palais, la luette, qui se relâche avec les muscles accessoires de la gorge et qui obstruent. Donc l'air passe un peu moins et donc crée une vibration et c'est le bruit du ronflement.
On peut prendre cette excuse pour notre moitié.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Tout à fait.
Bon, mais il y a une honte parce que c'est pas très sexy, évidemment, de ronfler. D'abord, ça fait du bruit, donc il y a une sorte de honte à cela. On vous le dit dans votre cabinet, j'imagine.
Oui, tout à fait. Il y a une honte, il y a des non-dits et on essaye de...
C'est quoi les non-dits?
On essaye de dédramatiser avec le patient. Le non-dit, c'est je vais pas dormir avec ma compagne parce que je vais la perturber. Et ça va.
Mais si on dort sur le ventre, on ne ronfle plus.
Alors, ça, c'est une très bonne remarque. C'est-à-dire qu'il y a des positions qui peuvent éviter le ronflement. Donc, si on dort sur le côté, on va pas ronfler, on va moins ronfler sur le ventre, on va pas ronfler, mais sur le dos, c'est très mécanique, la langue va pencher en arrière, va obstruer les voies aériennes supérieures, et là, on va...
Donc, faut dormir sur le ventre quand on ronfle.
Ou sur le côté.
Sur le côté.
Sur le côté.
Je voulais savoir...
Ou à côté, même, parfois. Oui.
Je voulais avoir votre avis concernant les produits que l'on peut voir en pharmacie, parfois, ces produits miracles, les sprays, etc., contre les ronflements. Est-ce que ça marche ou vraiment...
Alors, pour être très transparent, ça ne marche pas. Il y a des trucs très simples à appliquer avant d'aller se coucher, c'est de se laver le nez avec du sérum physiologique tout simplement, hein, pour désobstruer un petit peu les voies supérieures au niveau des fosses nasales. Ce qui marche bien, c'est
l'opération aussi, paraît-il.
Alors l'opération, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une déviation de la cloison nasale, vous allez ronfler. Fatalement, parce que l'air va un peu plus vibrer.
Bon, il n'y a pas de solution.
Si, il y a des solutions. Il y a ce qu'on appelle des orthèses d'avancée mandibulaire, comme des gouttières qui propulsent la mandibule et qui vont supprimer les ronflements.
Donc on s'endort avec ça.
Oui, on s'endort avec.
C'est beaucoup plus sexy. Et ça s'appelle comment ?
Une orthèse d'avancée mandibulaire.
Une orthèse d'avancée mandibulaire. Voilà. Chérie, je ronfle, va chercher chez le pharmacien une orthèse d'avancée mandibulaire.
Alors, c'est pas chez le pharmacien, c'est un spécialiste du sommeil qui va faire un examen.
Bon, le info revient dans une seconde. Merci, vraiment merci, monsieur Elbaz. Et on ne s'est pas endormi en vous écoutant. À tout de suite.
Merci.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, et merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h32, nous sommes en retard.
RTL Midi,
le 12h30,
Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
L'heure de votre grande édition, Agnès.
À la une, Cédric Jubilard va-t-il sortir de prison en attendant son procès ? Le juge des libertés doit se prononcer dans moins de 2 heures maintenant. La France au tableau. Quelle note cette fois de la part de l'agence Standard & Poor's ? Paris pourrait être à nouveau sanctionné pour sa gestion des finances publiques. Et puis ces nouveaux bombardements dans le conflit ukrainien, mais cette fois-ci sur le territoire russe. À suivre également, RTL, bien plus qu'une radio. Nous avons aidé les professionnels à recruter 117 saisonniers ces 6 dernières semaines.
Qui pourront témoigner à partir de 13h avec les auditeurs.
Vous pourrez également témoigner sur la qualité de votre sommeil, puisque c'est notre question du jour. Dormez-vous correctement? Et puis dans LVT Midi, avec Bernard Lehu, nous reviendrons sur l'élection de Sylviane Agacinski à l'Académie française et les difficultés que rencontre cette vieille institution.
Tous ces sujets, évidemment, à l'ordre du jour. Les auditeurs ont la parole. 32-10, 13h, 14h30.
La météo, ce sera à la fin du journal. Mais déjà, Valérie Quintin, un indice ?
Un indice, c'est que ça ne change pas du tout de ce qu'on a connu toute la semaine. Et on a déjà des orages qui commencent à se déclencher dans le sud, dans le Massif central notamment.
Merci beaucoup, Valérie.
Jusqu'à 13h.
RTL Midi.
Le procès de Cédric Jubilard pourrait avoir lieu dès l'an prochain. Mais en attendant, restera-t-il en prison ? Le 18 juin, cela fera 2 ans. 2 ans que le mari de Delphine est incarcéré. Il est mis en examen pour meurtre aggravé. Son épouse s'est volatilisée en décembre 2020 et depuis, aucune trace d'elle. Pas de corps retrouvé. C'est ce sur quoi appuie la défense, hein, d'ailleurs, du père de famille. Les avocats déposent régulièrement des demandes de remise en liberté. Et tout à l'heure, à 14h, donc, le juge des libertés rendra une nouvelle décision. Bonjour Patrick Tégéro.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Jusqu'ici, toutes les demandes ont été refusées, Patrick, et a priori, à part une grosse surprise, ça devrait être la même chose.
Oui, mais vous savez, les avocats de Cédric Jubilard ont encore plaidé sa cause mercredi avec véhémence. Face à eux, le parquet a requis le maintien en détention pour 6 mois supplémentaires en arguant, comme toujours, que libérer Jubilard provoquerait un trouble à l'ordre public, qu'il pourrait faire pression sur des témoins et qu'il n'est pas garanti qu'il respecte un contrôle judiciaire. En effet, le plaquiste fumeur de hache n'aurait pas d'emploi en cas de sortie de prison et le logement qui lui est proposé n'est pas assez bien équipé. Il n'y a ni frigo ni gazinière. Jubilard a assisté à l'audience. On a pu pu apercevoir ce petit homme mince. Il s'est coupé son bouc et porte désormais une barbe de 4 jours et le crâne rasé. Un sourire poli, il est résigné. C'est un enfant de la DAS, ballotté de famille d'accueil en institution. Il supporte tout, précise ses défenseurs. On ne l'a vu que quelques instants avant que le huis clos soit prononcé, ce qui est exceptionnel, mais c'est une décision constante des magistrats. Ils ne veulent pas que l'on entende leurs arguments et la contradiction de la défense. L'autre constante, eh bien, c'est le résultat, le maintien en détention, d'autant que le procès pourrait se tenir courant 2024. Alors la justice veut se garder son unique suspect d'évidence sous la main.
Patrick Tégéraud pour RTL. On suivra bien sûr cette décision à 14h. 4 hommes blessés par balle la nuit dernière à Trappe dans les Yvelines. 7 coups de feu auraient été tirés avec une arme de poing. Les agresseurs sont en fuite.
RTL Midi.
RTL bien plus qu'une radio.
Ah oui, nous sommes très fiers d'avoir aidé au recrutement de saisonniers il y a un mois et demi. Pierre Herbulot, bonjour.
Bonjour.
Nous avons rencontré des professionnels qui avaient beaucoup de mal à trouver des employés et 6 semaines plus tard, sur 149 emplois à pourvoir, 117 postes ne sont plus vacants. Joli score.
Oui, on n'est pas loin du sans-faute. 5 des 7 chefs d'entreprise passés à l'antenne ont réglé leurs problèmes de recrutement. Le Batelier à Strasbourg, 15 salariés trouvés et même des contacts pour l'année prochaine. Le Glacier Bordelais, 8 renforts pour l'été. Le Club Omnisport de Marseille, 10. Pareil pour Anne Coupet. Elle, c'était pour ramasser des choux à Richebourg dans le Pas-de-Calais. La liaison n'est pas très bonne quand je l'ai appelée à 7h ce matin. Elle était déjà dans son champ.
Écoutez, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup de contacts par téléphone, les profils. Quelque part, l'appel radio, ça sert de booster, quoi. L'appel radio a peut-être fait comprendre que oui, effectivement, il y a aussi d'autres secteurs que la restauration ou les bâtiments pour trouver un emploi, en tout cas un emploi saisonnier, quoi.
Le premier a commencé il y a quelques jours, les 3 autres quand les légumes arriveront à maturité.
Cela dit, le secteur hôtel-restauration a toujours besoin de monde pour cet été.
Oui, et Linda Azzi a beau avoir trouvé 70 saisonniers pour les hôtels du domaine des Fontenilles, il lui en manque encore une trentaine. Des femmes de chambre, des hôtes d'accueil, des managers de spa, des gouvernantes aussi. En restauration, c'est pire pour le groupe hôtelier, même si notre bistrotier face à la plage de Cassis a lui réussi à compléter ses équipes en salle et en cuisine. Pour être complet, l'autre qui cherche encore, c'est Frédéric Massia du Lagon Bleu à Toulouse, entreprise de rénovation et de nettoyage de piscine. Il est en quête de 3 salariés.
Merci beaucoup. Pierre Herbulot pour RTL.
Bon élève peut mieux faire ou bonnet d'âne. La France connaîtra ce soir la note donnée par l'agence Standard & Poor's.
Où en est le gouvernement avec sa dette? À Bercy, on n'est pas très optimiste. La note devrait une nouvelle fois être dégradée, ce qui peut avoir un impact économique avec le risque de voir les taux d'intérêt s'envoler. Et impact politique également, parce que la réforme des retraites était quand même censée, William Galibert, empêcher une mauvaise note.
Oui, rassurer les marchés, montrer la capacité de la France à faire des réformes, même si elles sont douloureuses, ce n'était pas bien sûr l'argument mis en avant pour convaincre l'opinion. Le gouvernement n'allait pas dire c'est pour faire plaisir au marché, mais ça faisait clairement partie du sous-texte derrière cette réforme des retraites. Et là, vous avez la réforme et quand même les mauvaises notes. On attend le verdict ce soir, mais c'est le plus probable, nous ont avoué plusieurs ministres ces dernières heures, et l'agence Fitch a déjà dégradé la note de la France il y a un mois. Bruno Le Maire a bien essayé de convaincre. Il a rencontré les analystes de Standard & Poor's, mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. Alors, si ça se confirme, le gouvernement essaiera de minimiser la portée de ses décisions. À Bercy, on nous dit, les agences de notation sont utiles, mais pas essentielles. Ce qui est utile, c'est ce que l'on fait et ce qu'on va continuer à faire.
Merci beaucoup William Galibert du service politique de RTL. Cette fois, le gouvernement n'a plus le choix. Le Conseil d'État lui donne 2 mois pour acter l'obligation d'un contrôle technique pour les 2 roues motorisées. C'est l'Europe qui l'impose. Et jusque-là, les autorités françaises avaient plutôt traîné des pieds. Mais Clément Beaune, ministre des Transports, affirme que la décision du Conseil d'État sera respectée.
La guerre en Ukraine, nouveau bombardement, mais sur une région russe.
Oui, selon le gouverneur de Belgorod, région frontalière de l'Ukraine, 2 civils ont été tués, 2 autres blessés ces dernières heures. C'est la 3e fois, Sophie Jousselin, que la Russie se dit attaquée.
Oui, 3 fois en une dizaine de jours que Moscou accuse l'Ukraine d'attaquer le territoire russe, à chaque fois dans des villages frontaliers, des actions que Kiev dément. Les bombardements de cette nuit ont donc fait 2 morts, 2 femmes qui circulaient dans une voiture touchée par des éclats d'obus. Selon le gouverneur, plusieurs drones ukrainiens auraient également été abattus près de la ville de Koursk. Et hier, c'est dans la ville de Chebekino qu'on a pu voir des images montrant des immeubles en feu. 2500 500 habitants de la ville seraient désormais accueillis dans des centres d'hébergement temporaires. Sur place, deux groupes de combattants russes anti-Poutine revendiquent ces différentes attaques. Ils ont rejoint les forces de Kiev depuis le début du conflit. Ils se battent pour l'Ukraine, sous commandement ukrainien, mais réalisent aussi ces opérations de déstabilisation sur le territoire russe, des actions que Kiev ne soutient pas officiellement.
Sophie Jousselin du service étranger de RTL. En sport, la fin du championnat de Ligue 2, c'est à vivre ce soir dès 20h dans RTL Foot. 10 rencontres en multiplex au programme, avec notamment une grosse bataille pour Le Havre, Metz ou encore Bordeaux. Nous filons à Roland-Garros.
RTL, Roland-Garros 2023.
Isabelle Langer, petite surprise en ce moment même sur le central.
Oui, la Belge Mertens, tête de série numéro 28 de ce tournoi, mène face à la numéro 3 mondiale, l'américaine Jessica Pegula. 6-1 dans la première manche pour la jeune Belge et un partout dans le deuxième set entre les deux jeunes femmes. Je vous rappelle la qualification de la Russe Kazatkina, demi-finaliste l'an passé, 6-2-6-1 face à l'américaine Stearns. On attend encore aujourd'hui du beau monde. Novak Djokovic sur le central, notamment face à Davidovich Foikina, l'espagnol. En soirée, ce sera Alcaraz, le numéro 1 mondial, l'héritier de Rafael Nadal face au Canadien Chapovalov. Ça va valoir le coup. Et puis on a encore sur le court Suzanne Lenglen, Tsitsipas contre l'Argentin Schwartzmann. Bref, ça va jouer bien.
Et puis il y a quelque chose de merveilleux cette année, c'est le soleil, parce que vous allez sans doute vivre un Roland-Garros sans une seule averse.
Et là, ça c'est plutôt pas mal. Transition. Mais à la fois on est dans une cabine.
Non mais c'est vrai, mais c'est quand Roland-Garros sous la pluie, c'est...
Ah bah c'est très agréable, Pascal.
C'est une horreur évidemment, tant est-ce que Roland-Garros plein soleil, c'est formidable.
On va voir si ça va continuer justement avec vous, Valérie Quintin.
Mais oui, en fait ça ne change pas, je fais que radoter depuis la semaine dernière, c'est exactement le même type de temps. Et c'est comme ça encore cet après-midi avec du grand soleil sur la moitié nord du pays et des orages qui commencent à se déclencher dans le sud. Alors c'est le cas principalement en Lozère, en Aveyron ou encore en Corrèze alors qu'il est. Ça commence à claquer aussi vers les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Corse. Et encore une fois, toute la moitié sud sera concernée, probablement avec un petit peu de grêle localement. Il faudrait être prudent, précisément vers le Massif central ou encore en allant vers la région Rhône-Alpes. La moitié nord, elle, va garder son soleil avec des températures qui baissent un peu. 17 degrés attendus au Havre, 23 pour Paris et Alençon, 26 à Tours, 27 degrés aujourd'hui à Mulhouse, 28 pour Ambérieu et Montélimar et 29 à La Rochelle. Merci Valérie.
Le suicide de la jeune Lindsay, harcelée, 13 ans. Nous allons en parler avec Nerissa Emani et avec Maxime Lévy. C'est une tragédie. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon. Agnès Bonfillon, Pascal Pro, RTL Midi.
Chers parents, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis sûrement parti. Je suis désolé d'avoir fait ça, mais je n'en pouvais plus. Des insultes matin et soir, des moqueries, des menaces. Je n'en peux plus et j'ai envie d'en finir. Et j'espère de tout cœur que ce que j'ai fait aura servi à quelque chose. Faites attention à Maëlys. Faites attention à vous, je vous aime, au revoir.
La lettre glaçante lue hier par l'avocat de la famille de Lindsay, cette jeune fille de 13 ans qui s'est suicidée à Vendin-le-Vieil parce qu'elle était harcelée à l'école et sur les réseaux sociaux. Hier, les parents ont annoncé déposer 4 nouvelles plaintes, notamment contre le rectorat et l'établissement scolaire qui, selon eux, n'ont pas pris la mesure de ce que vivait leur fille. Pour en parler avec nous en studio, Maxime Lévy du service police-justice de RTL et Nerissa Emani, notre spécialiste éducation. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors d'abord, Maxime, on le rappelle, dans cette affaire, pour l'instant, 5 personnes sont mises en examen.
Oui, tout à fait. Il y a une semaine, un majeur et 4 mineurs ont été mis en examen après une enquête ouverte par le parquet de Béthune et confiée au commissariat de Lens. Ces mineurs, mis en examen pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide, ce sont des élèves du collège où était scolarisé Lindsay à Vendin-le-Vieil. Sur notre antenne, la mère de Lindsay avait expliqué que les responsables de son harcèlement étaient des filles de son collège. Les parents de Lindsay avaient déposé 2 plaintes en février dernier, 3 mois avant le suicide de la jeune fille. Ils avaient alerté l'équipe éducative, avaient pris de nombreux rendez-vous avec le directeur, mais même cela n'a pas empêché le harcèlement et in fine le suicide de Lindsay. Pape Diaye, le ministre de l'Éducation, admet, je cite, un échec collectif.
Non, je vous en prie. Et on a appris également, c'est l'avocat qui le disait, que lors des obsèques de Lindsay, il n'y avait aucun représentant de l'école, ni enseignant, ni principal, ni membre de la direction.
C'est ce qu'explique la famille, tout à fait. Oui.
C'est pas pénalement répréhensible, pour le coup.
Non, mais on peut être choqué, oui, quand sûr, même, que ces gens n'aient jamais été accompagnés, les parents de Lindsay.
Nerissa, comment les établissements sont-ils formés à intervenir en cas de harcèlement scolaire? Et d'abord, est-ce qu'ils le sont?
Oui, ils sont formés, mais depuis peu. En fait, depuis 2020, on a un dispositif qui s'appelle le dispositif phare, qui est mis en place dans tous les établissements depuis la rentrée dernière. Et en fait, c'est une équipe de 5 personnes, des référents, de l'éducation, donc des profs, ça peut être une infirmière, ça peut être un CPE, un documentaliste, ceux qui le souhaitent. Ils suivent 8 journées de formation et leur objectif, c'est de savoir écouter les élèves quand il y a un cas de harcèlement, entendre les autres camarades. Ils ont des temps dédiés. Ce sont des personnels qui peuvent aussi renvoyer, faire la prévention, pardon, et de la détection, surtout, de cas de harcèlement.
Alors, pour écouter l'élève, il faut qu'il parle quand même. C'est comme ça, en fait, que les équipes repèrent le harcèlement?
Oui. En fait, la majorité du temps, c'est très rare que ce soit l'élève harcelé qui vienne directement à ses personnels pour leur dire « je suis harcelé » ou qui frappe directement à la porte du directeur. En fait, la majorité du temps, ce sont les camarades qui informent les professeurs d'un cas de harcèlement. Il y a aussi un passage en infirmerie qui peut être déterminant. Le premier maillon de la chaîne, selon les personnels de direction, ce sont les surveillants. Parce que vous savez, ils sont dans les couloirs, ils sont dans la cour. Et là, ils peuvent vraiment détecter un mal-être. Et c'est eux qui renvoient à cette équipe phare, notamment, et aussi directement à la direction, donc au principal du collège ou au proviseur du lycée.
En l'espèce, le harcèlement est avéré.
Quand c'est un cas avéré, c'est en fait à la direction de se poser la question, de faire son enquête, de voir tous ses référents et de se dire est-ce que le harcèlement est avéré ou non, et ensuite d'agir. Et donc c'est sa responsabilité au personnel de direction d'agir. Et là, il y a toute une procédure qui est très précise. En fait, le principal doit rédiger ce qu'on appelle un fait d'établissement. C'est un rapport sur une plateforme internet pour prévenir le rectorat de l'académie concernée. Et dans ce rapport, il ne doit pas noter de nom, il doit juste décrire les faits et donner un degré de gravité de la situation sur une échelle de 1 à 3. Et il est même possible de cocher une case pour prévenir le procureur de la République. Et grâce à ces faits d'établissement, on sait que dans les collèges et dans les lycées, 35% des accidents graves entre les filles s'exercent dans le cadre d'un harcèlement scolaire. Et puis ensuite, le directeur, il a une série d'appels à passer. D'abord à l'inspecteur d'académie pour lui signaler qu'il y a eu ce fait d'établissement. Et ensuite, appeler la police. Parce qu'il y a un référent police qui est connecté à chaque établissement en permanence. Et donc, le directeur va appeler la police pour le prévenir, pour lui demander aussi des conseils sur la procédure à suivre. C'est un lien qui est très, très important. Il faut savoir que chaque établissement a une réunion avec un référent police tous les mois.
Non, mais j'entends tout ce que vous dites et en même temps, je me dis, quelle lourdeur administrative.
Bien sûr.
Quelle lourdeur pour quelque chose qui pourrait être réglé dans un bureau avec « je convoque les parents » qui harcèle, je convoque les parents de l'enfant harcelé, je convoque pourquoi les enseignants et on se met autour de la table et on règle le problème.
Alors ça se fait, Pascal, simultanément. Mais justement, le fait d'établissement est très important parce que ça permet de laisser un écrit. Mais simultanément, donc le personnel de direction va recevoir l'élève harcelé, sa famille également, l'élève harceleur d'autre part avec sa famille. Et pour l'élève harcelé, il va y avoir aussi le directeur peut leur conseiller de porter plainte et donc leur dire la procédure va être rapide puisqu'on a déjà prévenu la police. D'où la lourdeur administrative, mais qui est importante.
L'espèce, les informations qu'on a, c'est que le proviseur était au courant, le proviseur connaissait cette fameuse lettre de suicide qui avait été retrouvé sous un matelas. C'est pas la lettre de suicide.
La première, oui.
Voilà, la première. Bon, il avait toutes les informations, mais à chaque fois, il a dit fin de non-recevoir.
Bon, on va voir, l'enquête administrative va devoir déterminer si effectivement il y a eu un fait d'établissement ou pas.
C'est ce que disent les parents, vous avez raison.
Voilà, il y a un moment. Et Maxime, en revanche, ce qui frappe aussi dans cette affaire, c'est que la famille de l'INSEE disait hier que les faits de harcèlement continuent sur les réseaux sociaux. Est-ce que de nouvelles enquêtes ont été ouvertes?
ouverte pour en savoir plus.
Oui, tout à fait. Alors, ce que l'on sait, c'est que depuis le suicide, depuis l'ouverture de l'information judiciaire et même depuis la mise en examen, le harcèlement ne s'est pas arrêté. Alors, pas sur l'INSEE directement, mais sur ses proches, notamment sa meilleure amie. Et à ce propos, le procureur de la République de Béthune nous indiquait ce matin, je cite, que de nombreuses enquêtes ont été confiées au commissariat de Lens avant même la tenue de cette conférence de presse hier. Il s'agit de procédures distinctes, donc pour des faits de harcèlement qui sont apparus après, d'une procédure distincte de celle déjà ouverte pour l'enquête sur la mort de l'INSEE.
Merci à tous les deux afin que l'on soit revenu sur cette affaire hein, après le suicide de l'INSEE à Vendin-le-Vieil. Merci Nery Saïmani, merci Maxime Lévy pour RTL.
Sujet, j'en suis certain, qui fera réagir évidemment les auditeurs. Sylviane Agazinski, elle est philosophe et c'est une pensée de haut vol qui entre à l'Académie française. On en parle dans une seconde avec Bernard Lehu.
Pascal Praud, Agnès Bonfillon.
RTL midi jusqu'à 13h. RTL.
Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL midi. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'Académie française et à ses difficultés à se renouveler. Bonjour Bernard Lehu.
Bonjour Pascal, bonjour Agnès.
Hier, les académiciens ont élu la philosophe essayiste Sylviane Agazinski au fauteuil laissé vacant par la mort de Jean-Loup Dabadie.
Celle qui est aussi l'épouse de l'ancien Premier ministre, Lionel Jospin, devient ainsi la 11e femme, Bernard, à intégrer l'Académie.
Oui, alors est-ce qu'une élection à l'Académie française est-elle encore un événement tout d'abord ?
Oui.
La crise que traverse cette institution. Alors, en tout cas, celle-ci illustre parfaitement hein, les difficultés des académiciens à recruter de nouveaux membres pour trouver un successeur à Jean-Loup Dabadie. Il aura fallu 4 élections successives, dont 3 blanches et plus de 12 tours de scrutin. Et finalement, Sylviane Agazinski a été élue avec 13 voix sur 23 votants, dont 7 refus fermes.
Ce qui est sûr, c'est que l'élection de Sylviane Agazinski, politiquement, n'est pas neutre.
Certes, le couple et la sexualité sont les thèmes de prédilection, on le sait, hein, de l'agrégé de philosophie. Et son opposition à la PMA et à la GPA ont créé la polémique dans sa famille idéologique d'origine, la gauche, qui lui reproche de s'être droitisée. Elle justifie au contraire son opposition par sa défiance de l'idéologie ultralibérale qui fait courir le risque d'une marchandisation du corps des femmes et d'une perversion du slogan féministe des années 70, on s'en souvient, « Mon corps m'appartient ».
Ses prises de position sur le voile ont également suscité des polémiques.
Hein. Ben oui, dans son dernier livre, c'est son tout dernier, « Face à une guerre sainte » publié en 2022, Sylviane Agazinski se montre sans concession dans son opposition au port du voile. « L'intolérable promotion du voilement des femmes », écrit-elle, et les accusations d'islamophobie dont elle est la cible, y compris de militantes féministes, masque pour elle, je cite toujours, le prosélytisme islamiste. L'Académie française envoie un message clair donc avec l'élection de Sylviane Agazinski.
Être philosophe permet d'entrer à l'Académie, Bernard ?
Mais oui, alors contrairement aux idées reçues, pas besoin d'être un écrivain au sens premier, un romancier. Il faut, par son activité, sa réputation, son aura, défendre la culture, la langue française. Aujourd'hui, il y a déjà un philosophe qui est Alain Finkielkraut, il y a un évêque, Monseigneur d'Agen, et puis on a eu autrefois des hommes politiques, Valéry Giscard d'Estaing, donc vous voyez que le recrutement est assez ouvert.
N'empêche, on l'a dit tout à l'heure, hein, Bernard, l'Académie française peine à trouver des candidats d'envergure pour occuper ces 40 fauteuils.
Oui, alors il faut dire qu'elle est boudée aujourd'hui par les grandes figures du monde littéraire et intellectuel. Aucun des 3 prix Nobel, par exemple, de littérature français, Le Clésio Modiano, Annie Ernaux, n'ont souhaité y entrer. Il reste encore 4 sièges à pourvoir. Et puis l'ambiance à l'Académie n'est plus celle d'une aimable assemblée, on l'a dit, tournant au ralenti et divisée, y compris sur ce qui devrait être sa mission principale, la défense de la langue française, comme le reconnaît sans langue de bois l'académicien Jean-Marie Rouard.
Eh bien, ce combat qui, à mon avis, devrait être la vocation essentielle de l'Académie, il est un peu en panne, parce qu'il y a eu un rapport sur le franglais et sur la colonisation par le franglais de la langue française, notamment de la part de ceux qui devraient faire respecter cette langue, c'est-à-dire le président de la République au premier chef, les ministres et les administrations. Alors, ce rapport a été fait, qui est tout à fait remarquable, mais ce qui est étonnant, c'est de voir que l'Académie est très peu pressée de le publier, parce que je crois qu'il faut sensibiliser l'opinion et lui montrer que l'Académie, contrairement à ce qu'on peut croire, travaille sur cette question. Et bizarrement, il y a des réticences à l'Académie. Il y a quelque chose, alors je ne sais pas, c'est parce que l'Académie ne veut pas faire de peine à son protecteur, le président de la République, qui, lui, a une fâcheuse tendance à parler de Startup Nation. Donc, je suis extrêmement pessimiste. Et pour moi, dans 20 ans, la langue française sera une langue morte.
Il n'y va pas de main morte.
Il exagère un peu.
En tout cas, conclusion, un peu de rififi chez les académiciens.
Merci beaucoup Bernard Lehuy.
Les auditeurs arrivent dans une seconde.
RTL Midi.